madame.
Merci beaucoup de ces propos très intéressants. Je dois dire, ça fait 2 heures en fait que l'on parle et on parle de l'avenir de l'industrie, on parle de l'innovation. Et comment vous expliquez le fait qu'on se coupe de toute une partie de la population, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune femme qui est intervenue et il n'y a aucun jeune qui est intervenu jusqu'à présent. Voilà, que pensez-vous de cette situation ?
Je m'étais fait une réflexion. On a fait il y a 2 mois une séance sur les immigrés, il y avait énormément de monde et beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, la séance sur l'industrie, il y a peu de femmes. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on les a fait fuir. Et ce n'est pas un sujet qui les branche. Et puis les jeunes, d'abord, il y en a. Mais en plus, ils ont souvent des cours. Et en ce moment, ils reçoivent leur diplôme. Donc.
Oui, l'idée, c'est plutôt au niveau de l'innovation, de la création, de la créativité. Je pense que, enfin, je ne sais pas, après, c'est vous de me dire, c'est plutôt une question. Comment prendre toutes les énergies en fait, qui sont disponibles pour pouvoir vraiment réussir ? Voilà, je pense que si on reste avec simplement les mêmes types de recrutement, si on ne donne pas la parole à certaines personnes, si on ne motive pas certaines personnes dans l'entreprise, il y a beaucoup de créativité et d'innovation qui passent à la trappe.
Oui, un des facteurs qui font que les gens se dépassent, se défoncent, c'est le rêve. C'est qu'ils se mettent à rêver de quelque chose collectivement. Il y a un article dans les Échos aujourd'hui de Bernard Charles qui dit « on manque de rêve ». Quand il nous a présenté Dassault Systèmes, en fait, il y avait un point. Tout le monde rêvait de choses convergentes. Et alors, dans l'école de Paris, on voit souvent des gens qui font des trucs, ils se défoncent complètement. Alors, est-ce que l'industrie, aujourd'hui, fait rêver ? Globalement, peut-être pas, mais il y a sans doute des gens qui savent faire rêver. Là, vous en retrouverez dans le MOOC. Et le problème, c'est que j'ai cherché un titre. Je ne suis pas sûr que le titre que j'ai eu pour la soirée était très bon, parce qu'il y a moins de personnes qui se sont précipitées que ce à quoi je m'attendais. Il y a un an, on avait fait une séance qui s'appelait « Le véhicule électrique va-t-il enfin démarrer ?» On a eu 700 inscrits et 400 places. Donc là, voilà, quelque chose qui faisait rêver. Alors l'industrie en général, peut-être que ça ne fait pas rêver et c'est peut-être un problème de l'industrie. Michel Hervé.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est rentré dans une autre époque ? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France, on ne sait pas qu'au fond, l'économie marchande, c'est-à-dire le règne du banquier, a commencé à partir de la Renaissance. Et que ce que vous appelez l'industrie, c'est au fond l'économie de la connaissance dans laquelle on a cédé la place à l'écolier, au bachelier, au licencié, pour faire 3 révolutions, dont celle du numérique, la dernière, qui nous permet au fond de mettre notre mémoire et notre logique dans l'ordinateur. Pourquoi je prends la parole ? Parce que François Loss ensuite nous dit « Oui, mais les Américains, ils ont le modèle et le modèle de la puissance. » Oui, mais ça, c'est l'économie de la reconnaissance. C'est celle qui nous vient à peu près des années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est en train d'arriver, c'est pas seulement... Parce que le modèle de la reconnaissance est basé sur un prix qui n'a plus rien à voir avec le coût de l'heure ou avec le nombre d'heures. L'économie de la connaissance dont vous parliez, vous dites qu'il faut faire des gains de productivité, robotiser au maximum pour diminuer le nombre d'heures et donc avoir un produit le plus bas possible, le plus low cost possible. OK. Mais dans l'économie de la reconnaissance, c'est le luxe, c'est LVMH, c'est ce que vous dites pour les Italiens. OK, mais ce n'est pas ça que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'économie de l'innovation. Mais l'économie de l'innovation, c'est quoi ? C'est des êtres créateurs. Et des êtres créateurs, c'est des gens libres. C'est des gens qui ont la liberté. Et ce n'est pas en leur faisant faire 45 heures, ou etc., que l'on va les amener à créer. C'est au contraire en les laissant dans cette motivation de création, pas seulement individuellement, mais collectivement. Parce que c'est ça l'intelligence collective, l'intelligence interliguerée, liée ensemble. 2 idées pour faire une idée nouvelle, mais liées ensemble, des cultures différentes, des parcours différents. Et la France est formidable de ça. Ce n'est pas un brodélien qu'on va dire le contraire, n'est-ce pas, sur la diversité française. Cette diversité, elle est dans nos jeunes aujourd'hui. Mais ici, il n'y a pas justement cette sorte de bouillonnement que moi je rencontre parmi les jeunes. Je vais prendre un seul exemple. J'ai un jeune, 22 ans, il est responsable d'un chantier. Ce chantier, comme par hasard, c'est la fabrique à Nantes, qui est le lieu où le maire a décidé qu'on allait faire de la création sous toutes ses formes. Et ce jeune, sur son chantier, dit « j'ai 20 000 heures à faire ». Mais au fond, je suis avec des artistes et qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire une œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle tous ses copains, compagnons du devoir, pour qu'ils fassent une œuvre de leur chaufferie et de leur centre de climatisation. Qui fait que les artistes trouve ça tellement génial que maintenant, ça devient le numéro un du chantier. Et naturellement, ça s'est fait avec plus d'heures que les 20 000 heures. Mais les jeunes, ils ont travaillé pour le plaisir de créer. La création, aujourd'hui, c'est ça. L'innovation, c'est tous les gens qui veulent faire quelque chose. Et à ce moment-là, quel est le problème ? Ben, le problème, c'est toute notre hiérarchie. C'est toute cette contrainte nationale, cette décentralisation que nous n'avons pas. Et si on parlait des Allemands, on dit oui, mais ils sont de manière fédérale. Mais nous n'avons pas suffisamment de décentralisation. Nous sommes un peuple trop centralisé depuis quand ? Depuis la Révolution française. Et peut-être avant. Mais avant, quand on regarde et quand on écoute Brodel, on s'aperçoit que cette France était quand même extrêmement décentralisée. Eh bien, dans nos entreprises aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut arriver. Moi, j'en ai 2500 créateurs.
Alors là, maintenant, comme d'habitude, les questions crépitent. Je vais faire poser les questions 3 par 3 et la table répond en bloc. Pierre Couvain.
Je peux m'associer à la question précédente. S'il y a une partie de l'industrie française qui prospère, c'est l'industrie du luxe. Il n'y a pas de jour où on n'entend pas parler de nouveaux triomphes de LVMH ou d'Hermès, etc., etc. Est-ce qu'il y a des leçons ? Parce que jusqu'à l'intervention précédente, on n'avait pas entendu trop parler de luxe, à part peut-être les chaussures italiennes. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce secteur d'industrie qui pourrait être utilisé par l'ensemble du secteur industriel ?
Alors là, vous réfléchissez, monsieur derrière.
Je partirai de la remarque de M. Rank disant « la Chine est inquiétante ». J'enchaînerai sur ce que M. Dehaec a dit concernant les TGV. On pourrait ajouter les avions, d'ailleurs, d'ores et déjà. Demain, je crains qu'on ajoute les automobiles. Ils ont racheté Volvo. Alors, Volvo, ils peuvent en racheter beaucoup puisqu'on les a laissés accumuler 3 000 milliards de dollars de réserves. Dans le cadre d'une stratégie qui est très claire dans leur esprit, hein, c'est pour pouvoir avoir accès aux ressources minières, pétrolières, aux réseaux de logistique et racheter des entreprises, effectivement, comme Volvo, qui leur apportent technologie, réseau de distribution, réseau d'après-vente, etc. Donc l'innovation en Chine, j'ajouterais par exemple pour parler d'innovation en Chine, c'est très beau l'innovation, je suis pour une innovation, mais vraiment à tout craint. Mais actuellement, les derniers produits d'Apple, les derniers produits de Sony, les derniers produits de Hewlett-Packard, c'est bien qu'ils aient été inventés encore actuellement par des firmes occidentales, mais où sont-ils fabriqués ? L'industrie, elle est où ? Elle est chez les Chinois. Alors, donc, les avantages compétitifs que l'Occident a par rapport à la Chine en ce qui concerne l'innovation, la recherche et le développement et la créativité, je crois qu'il faut l'oublier complètement. Bon, alors ceci dit, la Chine a tout de même un avantage compétitif, je m'excuse, mais dont il faut parler quand même. C'est les normes sociales et les normes environnementales. Et les écarts ne sont pas ce que j'ai entendu récemment M. Lamy, directeur général de l'OMC, dire, disant que, à quelqu'un qui l'interpellait, prétendant que les différences de coûts ne sont pas de 1 à 10 ou 20. Il disait qu'il y a une différence de 60%. Les différences sont, les chiffres le prouvent, de 1 à 10 ou 20, voire plus, en ce qui concerne, donc ce qui concerne le coût horaire, parce qu'ils n'ont pas de protection ou une protection sociale très faible. Donc cet avantage compétitif, si on pense pouvoir rivaliser avec la Chine à armes égales, je crois qu'on rêve complètement. Moi, je me demande encore pourquoi il y a des industries en France. Maintenant, je voudrais dire à M. Loss...
Parce que la Chine a du mal à fournir sa demande intérieure.
Non, mais sa demande intérieure, elle est bridée en Chine. Ouais. Elle est bridée.
Mais peut-être que vous pouvez conclure.
Non, mais c'est pour dire, par exemple, sur le problème de la chaussure. D'accord, les Italiens ont peut-être, je ne sais pas, quelques milliers d'emplois encore dans la chaussure. En France, il en reste peut-être encore quelques dizaines ou quelques centaines. Mais il y en avait des dizaines et des centaines de milliers qui sont partis. Donc voilà, je ne sais pas, j'aurais quelque chose à dire. Hein, mais...
Michel Verrer.
J'avais une question, cette fois-ci, à poser aux différents membres de la table ronde. C'est sur notre dispositif d'éducation. S'il y a bien quelque chose sur lequel on peut, en principe, agir, c'est de le modifier un peu. Normalement, c'est vrai, c'est relativement rigide, mais on peut essayer. J'ai entendu M. Diribarne dire qu'il y a un point important, c'est que les dirigeants ne sortent pas de l'université, mais sortent des grandes écoles. Est-ce que vous pourriez les uns et les autres nous commenter un petit peu ce que vous pensez de la responsabilité de notre mode de formation sur l'évolution de l'industrie en France?
Voilà, donc le luxe, est-ce qu'on peut en tirer des leçons dans d'autres domaines? Alors, on a fait une soirée en décembre sur la marque France, où on voyait qu'évidemment les marques de luxe, c'est ce que les étrangers nous reconnaissent le plus. Et on a fait une séance aussi sur une stratégie de luxe pour la France. Et puis l'autre point, c'est autour de la question des élites et de l'industrie. Alors voilà, qui veut répondre? Et après, j'aurai trois autres questions.
Une réponse à celle qui vient d'être posée. Je pense que les autres pays sont souvent beaucoup plus spécialisés que nous. C'est-à-dire nous avons une caractéristique, c'est l'ingénieur généraliste. Ça, c'est unique en France. Et la spécialisation et, disons, le respect plus important de toutes les formations manuelles. C'est quelque chose qui, en France, ne marche pas bien. Quoi. Il n'y a pas de rite. Quand on reçoit le diplôme de l'ESCP, je suppose qu'il y a des fêtes, on lance son chapeau en l'air, enfin, on fait des trucs, on est admis, on est quelqu'un, on a un réseau et tout ça. Mais quand on devient pâtissier, on a juste un CAP, éventuellement on a été dans un rayon de supermarché, il n'y a pas de valorisation. Je crois que c'est la caractéristique fondamentale de pays qui sont plus industriels, c'est cette valorisation du travail manuel qui est différente. Enfin, c'est mon sentiment. Une deuxième réponse sur les questions chinoises. Il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne un jour, c'est que quand le voisin s'enrichit, on s'enrichit aussi. C'est-à-dire l'économie, c'est pas mon voisin s'enrichit, donc moi je m'appauvris. C'est au contraire, quand lui s'enrichit, on s'enrichit tous les deux. C'est exactement l'histoire de l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne ou l'entrée de l'Irlande dans l'Union européenne. C'est-à-dire que chaque fois que vous en faites rentrer un qui a un niveau de vie plus bas, il rattrape. Et en rattrapant, tout le monde gagne. Et on a sur l'Espagne, vous pouvez regarder, ça donne exactement ça.
Alain Diribard, je crois.
Je voudrais revenir sur le commentaire sur l'industrie du luxe et à partir de l'intervention de Michel Hervé. Il y a quand même un élément extrêmement important en France qui est la notion de chef-d'œuvre. Vous savez que c'est une base extrêmement importante de la logique de métier et de la reconnaissance de la noblesse du métier, qui renvoie à tous les mécanismes de créativité. Et en fait, ce que tu n'évoques pas, Michel, c'est que l'organisation du travail qui permet d'avoir cette créativité, ce n'est pas uniquement la lourdeur de la hiérarchie, c'est finalement la façon dont on laisse à celui qui a une compétence professionnelle réelle la capacité à être lui-même créatif des choses qu'il a à faire. Et c'est pour ça que j'évoquais le problème de la difficulté des entreprises françaises à quitter le taylorisme et à refabriquer du néo-taylorisme, alors qu'on sait que justement les endroits performants sont des endroits qui libèrent la capacité à faire les choses. Et les Français sont capables de le faire. Il y a un problème, c'est que l'appareil éducatif à nouveau n'est pas construit sur la socialisation des élèves à la créativité. Et quand vous faites les comparaisons internationales, de nouveau, ça fait partie des grandes critiques à la société française. Même chose, on pourra rediscuter des ingénieurs, c'est pour ça que j'évoquais les arts et métiers. Les arts et métiers étaient un lieu de créativité, de l'art de faire. Et du reste, ça renvoie à des logiques d'art. Et donc voilà, ce qui fait que, effectivement, dans le secteur des nouvelles technologies, les Français ne sont pas mauvais sur les technologies créatives, en particulier dans les domaines de l'image, l'image de synthèse. Quand vous regardez aujourd'hui un certain nombre de grands films, y compris américains, ceux qui font les images sont des Français. Ce qui veut dire que, de nouveau, il n'y a pas de fatalité. Encore faut-il prendre les bonnes mesures pour libérer les choses importantes et bloquer celles qui ne sont pas intéressantes.
Puisqu'il a mis deux fois en cause les arts et métiers, il faut quand même que je réponde. Hein, après avoir fait 15 ans de direction du CNAM, j'ai pris maintenant depuis 5 ans les arts et métiers. C'est vrai que je suis tombé dans une maison dans laquelle il n'y avait plus un gars qui travaillait la matière. Plus un mec qui sait ce que c'est que pousser une lime. Il n'y a plus un mec qui sait ce que c'est que toucher la matière. Alors après, il ne faut pas s'étonner que ça fasse des... Alors qu'est-ce qu'on a fait, ces ingénieurs-là? Un beau jour, on a dit, tiens, ça devrait pouvoir faire comme Polytechnique et Centrale. Alors on a dit, ils vont passer le même concours. Il n'y a que ceux qui ne rentrent pas à Polytechnique ou à Centrale qui vont aux arts et métiers. On a tout foutu par terre. Hein, je reste encore avec l'idée. En 50, moi, je rentre dans une école nationale professionnelle, 1950. Hein, 54 heures de cours par semaine en sixième, on faisait du latin, on faisait du dessin d'art, on faisait de la musique, en même temps que du dessin industriel, de l'atelier, etc. C'est-à-dire qu'à ce régime-là, preniez des gars qui sortaient de milieux extrêmement populaires, qui n'avaient pas de culture, et vous transformiez ça en un gaillard qui ne savait rien d'autre que les arts et métiers. Passer les arts et métiers, ben après, il pouvait faire autre chose. On a complètement cassé cette promotion sociale. Et aujourd'hui, quand je vois mes gars, il y a des Mozart assassinés dans le CNAM, je ne sais pas s'il y a des représentants du CNAM ici, mais qui sont fabuleux. Hein. Et je peux vous donner un exemple. Au mois de juin l'année dernière, je mets les diplômes d'ingénieur du CNAM, bien sûr dans un cul de basse-fosse du CNAM, parce que là, il n'y a pas les moyens. Et puis le soir même, je mets les diplômes d'ingénieur de l'École nationale professionnelle des arts et métiers, Paris Tech, au château de Versailles, avec Madame Valérie Pécresse. Fin juillet, il y avait deux mecs du CNAM qui n'avaient pas de boulot. Fin septembre, il y avait 12% des élèves des arts et métiers qui n'avaient toujours pas de boulot. Donc il y a bien quand même quelque chose dans la formation manuelle. Quand les gens ont touché à quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Quand ils sont derrière leur ordinateur ou en train de faire du calcul artificiel, ben, ils ne vont pas très très loin. Donc il faudrait quand même au moins qu'on garde un petit peu ça. Et puis les compagnons du devoir et puis tout ça. Hein, c'est...
Un mot de plus sur la formation. Tout en respectant tout à fait ce que dit Jean-François sur les Gazards, il a raison. Je crois qu'il faut quand même garder une proportion des choses. Je ne pense pas que le principal problème de l'entreprise française soit la formation de ses ingénieurs et de ses cadres, de ses managers. On peut améliorer les choses, il y a des dérives négatives, il y en a des meilleures. Le problème numéro un a été cité aussi par Jean-François, ça me paraît plutôt le problème des opérateurs, des techniciens, des soudeurs. Là, oui. Donc je crois que gardons la proportion. Le vrai problème de ce mastodonte de question nationale, c'est qu'on ne sait plus, comme l'a dit François Loss, bouger les professeurs, on ne sait plus former les gens au métier pour lequel il peut avoir du travail. On forme les gens en fonction de l'effectif de professeurs qu'on a. C'est épouvantable. Et l'incapacité du système public français à réguler cette énorme machine, moi, m'inquiète. Et le grand problème... Le problème de grande masse, c'est celui du grand nombre, ce n'est pas celui des dizaines de milliers d'ingénieurs français qui, en gros, quand même, répondent aux besoins qu'on a d'eux. L'autre sujet étant le naufrage profond de la formation permanente, dans lequel des milliards sont dépensés à des fins que j'avoue ne pas bien mesurer, tellement elles sont inefficaces.
Bon, on va prendre la dernière volée de questions avant de pouvoir continuer autour du buffet. Madame. Madame.
Je voudrais savoir si le problème n'est pas aussi au niveau des jeunes, et on n'a pas entendu un seul jeune. Je pense qu'il y a eu des sondages qui ont été faits sur les jeunes, et la plupart des jeunes voulaient être fonctionnaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de promouvoir auprès des jeunes, essayer de leur donner le goût de l'aventure, essayer de leur donner le goût de former des entreprises? Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui voudraient répondre?
Ensuite...
André Portnoy, Futurible. Oui, je trouve très sain que l'on parle des compagnons du devoir dans cette noble réunion. Les ayant fréquentés, j'ai constaté que les comités réfléchissant à l'avenir de la profession des compagnons du devoir sont capables de parler de vision systémique, sont capables de dire « mais le client, il nous achète du service en réalité ». Et oui, toutes les industries vendent de la technique, mais tous les clients achètent du service. Et on a du mal à le comprendre. Et l'usage, c'est on achète du plaisir. Mais le déplaisir, pour moi, c'est que j'entends Alain Diribarne parler de rapport depuis 30 ans. En 86, je crois que j'ai reproduit un morceau d'un rapport du ministère de l'Industrie qui disait en gros deux choses. La première, c'était la France perd pied de plus en plus dans les domaines et les secteurs de technologie avancée et attention. Deuxièmement, il disait 70% de l'aide publique en recherche et développement va à un petit nombre de grosses sociétés non représentatives du potentiel français, c'est-à-dire les copains. Et or, ce ne serait pas très grave si ces grandes entreprises étaient solidaires des petites. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas en France l'esprit de partenariat, d'écosystème positif, gagnant-gagnant, qu'il y a en Allemagne et dans d'autres pays. Et donc, les petites entreprises qui naissent, puisque nous avons beaucoup de créatifs, à un certain moment font comme ILOG, ILOG fleuron de l'informatique française, qui a été financé au niveau de la formation, puis au niveau de la recherche, puis au niveau de la croissance de l'entreprise, jusqu'à ce qu'il ait 500, 600 personnes, et tout à coup, il devient IBM. C'est-à-dire que notre formation, notre recherche servent parce que nous sommes très généreux à financer nos plus grands concurrents, les États-Unis, l'Asie, etc. Et notre dernier prix Nobel, n'est-ce pas, de physique, qui est dans un laboratoire mixte entre une grande entreprise française et le CNRS, un mois après avoir publié ses résultats, il a eu la visite d'IBM, qui 9 ans après faisait la première application massive de la magnétorésistance géante, c'est-à-dire toutes les têtes de lecture de nos ordinateurs. Alors, je préconiserais que l'on supprime la recherche tant qu'il n'y a pas d'industriel désireux de s'en servir. Et là encore, il y a une grosse erreur française au sommet, pas à la base. C'est qu'au sommet, on croit recherche égale innovation, d'où tout mis sur le crédit impôt recherche, qui n'aide pas les PME. Alors, je voudrais simplement conclure sur un point. C'est que Alain Déribarne a dit, en fait, au début, il y a du taylorisme en France. Or, nous sommes en train de faire un tour sur le terrain et nous voyons qu'il y a dans tous les secteurs des entreprises françaises qui fonctionnent bien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et tout simplement, ils appliquent une recette. Ne méprisez ni le personnel, ni le sous-traitant. Francis Maire dit, c'est honteux quand même de parler de sous-traitant et non pas de partenaire, ni le client. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va décider pour ne pas aller dans le gouffre? Car nous allons au gouffre, nous allons au pire. Comment opérer cette révolution culturelle d'une stratégie de respect, qui est la stratégie gagnante, on a la preuve. Et il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler mieux, c'est-à-dire de s'organiser autrement. Je rappelle juste une chose, SAS Institute, en l'an 2000, a reçu la visite d'une délégation du patronat qui, dans l'avion, rigolait en disant « Ah, c'est pas là qu'on va nous parler de 35 heures ». Et quand ils sont arrivés, on leur a dit « Ça fait 10 ans chez nous qu'il y a les 35 heures ». Seulement, ça ne veut rien dire, les heures, ça ne mesure pas le travail.
D'accord, merci. Eric Spitz.
D'abord, je voulais dire que ça ne s'est pas passé tout à fait pareil que ce que vous racontez sur l'histoire de IBM. C'est une histoire que je ne sais pas d'où elle vient. Ça s'est passé complètement différemment. Je ne vais pas l'expliquer ici. Néanmoins, je voudrais faire une remarque sur ce problème de R&D et innovation, parce qu'il y a, à vrai dire, deux dimensions dans ce domaine. Je pense que les gens rêvent, continuent à rêver, dans les laboratoires, universités et dans l'industrie. Il y a aussi beaucoup de gens qui innovent. Et le problème, c'est qu'il y a actuellement énormément d'acteurs partout, beaucoup d'acteurs. Autrement dit, ce n'est pas seulement le sujet qui est important, c'est la vitesse avec laquelle on sort la chose. Ça veut dire que l'information circule d'une façon extraordinaire. Tout le monde sait à peu près tout. Tout le monde lit les mêmes articles. Et il y a des centaines de laboratoires de bon niveau dans le monde entier. Autrement dit, la vitesse devient essentielle. Et ma question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite? Est-ce que c'est une question d'organisation? Est-ce que c'est une question que des moyens? Je voudrais savoir, est-ce que vous avez l'impression que le système, comme il est en France aujourd'hui, est-ce qu'il retarde les choses?
Bon, je prends plus que deux questions. Monsieur au fond, qui veut intervenir depuis longtemps.
Amaury Debuchet, je suis professeur affilié à l'école et responsable de l'incubateur. Donc, juste une petite réponse à les questions précédentes. Si on fait la conférence 2 heures plus tard, on a beaucoup plus de jeunes. Il y a un problème d'horaire. Ils travaillent malheureusement. Ils n'ont pas la liberté de s'absenter de leur entreprise. Et deuxième chose, pour la créativité, nous, on voit effectivement, donc dans l'incubateur, il y a 30 jeunes, à peu près, grosso modo, chaque année, en forte augmentation depuis 2 ans avec la crise, qui créent leur entreprise, et c'est un nombre qui finalement, on peut dire que c'est un nombre élevé, mais qui reste très très faible par rapport aux plus de 1000 élèves qu'on a chaque année dans la promo. Donc question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter ce chiffre? Et deuxième question, qui pour répondre à un des commentaires de tout à l'heure, Jacques Marseille, un peu avant sa mort l'année dernière, faisait un parallèle avec les nombres de médailles olympiques, en disant voilà, en France, on est quasiment ceux qui ont le plus de médailles olympiques, parce qu'en fait, on est présent dans tous les sports. Et est-ce qu'en France, ça pourrait être un axe de progrès ou une stratégie pour la France, justement, de faire mieux travailler toutes ces industries plutôt que de les prendre filière par filière?
Voilà, dernière question, Rivline. Et après, je demanderai aux orateurs de répondre. Et puis, je pense qu'ils ne pourront pas répondre à tout. Vous pourrez continuer à en discuter, si vous voulez, au buffet.
Plusieurs intervenants ont réclamé la voix des jeunes. Eh bien, je vais vous dire ce qu'ils pensent les jeunes. Au cours de ma carrière, j'ai observé une évolution très intéressante, c'est que mes élèves parlent de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que depuis la maternelle, on leur dit « cause, explique, de quoi tu as envie ». Moi, quand j'étais à l'école, on me disait « tais-toi et apprends ». Je pense qu'il faudrait rétablir un équilibre entre ces deux attitudes. Parce que comme ils n'ont pas envie d'être tourneurs, comme ils n'ont pas envie d'être fraiseurs, il n'y a plus de tourneurs, il n'y a plus de fraiseurs. Or, quand ils arrivent sur le marché du travail, ce dont ils ont envie, c'est d'un emploi. Mais là, il n'y a pas. Bon. Alors, la sanction de la vie est infiniment plus sévère. Donc, je pense que l'avenir des jeunes consiste dans le fait que les parents aient le courage d'être des parents, que les maîtres aient le courage d'être des maîtres, et que les patrons aient le courage d'être des patrons et qu'ils les fassent rêver.
Ben, vous répondez ad libitum.
Je voudrais répondre à Eric Spitz. C'est vrai que j'ai pris le parti de l'optimisme tout à l'heure, peut-être par réaction à mon prédécesseur à la table, mais aussi parce que je pense que si on n'est pas optimiste, il ne faut pas faire d'industrie. Enfin, je veux dire, l'industrie, c'est foncièrement croire aux choses et penser qu'on va y arriver. Si on pense toujours qu'on n'y arrivera pas, on ne fait rien. Et je pense que le débat de ce soir, heureusement qu'il n'y a pas trop de jeunes, en un sens, parce qu'ils auraient pu paraître découragés. Alors, si je dois être un tout petit peu négatif, après avoir dit que je trouvais que c'était une très bonne nouvelle qu'en France, la recherche publique et la recherche privée se causent, que les entreprises croient désormais qu'il y a dans la recherche publique des vraies pépites à utiliser, je crois en revanche que le prix qu'on paye en ce moment est celui de la complexité. On a empilé, nous sommes en France, donc on construit sans détruire, on a empilé un tas de trucs qui sont globalement positifs, les pôles de compétitivité, les du Carnot, les machins, les réformes, les trucs. Bon, il y a énormément de choses bien. Il faut reconnaître que le prix, c'est quand même la complexité et qu'on passe beaucoup de temps à faire du courant réactif, à comprendre comment ça fonctionne et à faire des propositions. Donc oui, c'est complexe et je pense qu'à un moment donné, il faudra que la biologie fasse son œuvre et que les trucs qui ne marchent pas disparaissent d'eux-mêmes et que les responsables ne cherchent pas à faire l'acharnement thérapeutique sur ce qui ne marche pas ou plus. Deuxièmement, on ne va pas assez vite, tu as raison Eric, parce qu'on n'a pas le sens de l'urgence. Je crois que tout ce qu'on dit ce soir, il y a du positif et du négatif, mais dans les deux cas, il faut aller beaucoup plus vite. Le sens de l'urgence, on ne l'a pas. On a un peu le sentiment parfois qu'on glose sur ce qui se passe sans se rendre compte qu'ailleurs, les choses vont infiniment plus vite. Mais pour ça, il suffit de le dire, il me semble.
Il faut quand même faire attention. Hein. Il ne suffit pas de dire, les gars, soyez optimistes, tout va bien. Ça marche un petit moment. Puis quand les mecs sont au chômage, n'ont pas de boulot et ne trouvent rien à faire, ça commence à grincer un peu. Donc je pense qu'on a un gros, gros effort à faire. Si nous ne sommes pas capables de créer de l'emploi dans ce pays, on va droit au mur. Et vous pourrez sortir toutes les plus belles promotions de Paris Tech, de Saclay ou d'ailleurs, ça passera pas quand même. Oui, on a peut-être été un peu pessimiste ce soir, mais il y a quand même des vrais problèmes, parce qu'effectivement, on l'a dit pendant 40 ans, on l'a redit pendant quelques années, ça va pas durer éternellement. Il y a toujours des solutions, mais faut des mecs courageux et faut pas des conformistes, faut des gens qui planquent pas leurs cartes et qui les jouent et qui jouent à autre chose qu'au poker menteur.
Moi, j'ai un petit commentaire à faire. C'est si cette soirée s'était appelée le défi de l'agriculture, on aurait eu le sentiment que la France est une puissance agricole. Et là, on n'a pas eu le sentiment avec ce débat que la France est une puissance industrielle. Vous avez plus été sur la défensive et nous avons été plus dans le constat des difficultés que dans la volonté de puissance. Et c'est cette volonté de puissance qu'il faudrait arriver à gagner. C'est là que ça se passe. Et donc, un débat comme celui-là est très révélateur de l'état d'esprit des Français, malheureusement.
Alors, tu pourras revenir le 1er avril, nous avons une séance « Les défis de la compétitivité pour l'agriculture française » et vous allez voir que ça ne se présente pas aussi bien qu'on pourrait le croire.
Toutes les analyses faites sur ces secteurs sont valables pour l'agriculture. Absolument. Il y a aucun, exactement, c'est structurel. On les retrouve de secteur à secteur. On peut les passer au crible les uns avec les autres. Si dit... On m'a accusé d'avoir une vision pessimiste des choses. J'ai fait quelques verbatims de ce que disaient mes différents interlocuteurs. Ils sont au moins aussi bons que moi dans une vision négative du système. Donc la question qui est bien posée, c'est pourquoi depuis 40 ans, ça n'avance pas. Alors on va attendre 10 ans, mais on y est toujours. Hein.
Vous avez sans doute l'impression que cette soirée est allée dans tous les sens, que comme d'habitude, ça pétillait d'esprit, mais qu'on ne sait pas trop quelle ligne on a pu suivre. Mais vous serez étonné en lisant le compte-rendu rédigé par Elisabeth Bourguina, qui va tout nous remettre en ordre. Et vous allez voir que finalement, on était bien meilleur que ce qu'on pensait, naturellement pessimiste, mais quand même beaucoup plus clair que ce qu'on pouvait penser au fil de la discussion. Alors on pourra continuer auprès d'un buffet, puisqu'on continuera à la française. Merci.